Bonsoir, bienvenue dans cette édition des Tribunes de la Presse. Ces deux thèmes sont au centre du débat, à savoir élection 2011 en République démocratique du Congo. Les candidats Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi sont arrivés au Nord Kivu lundi dernier dans le cadre de leur campagne électorale. Tous les procureurs généraux ont été inscrits mardi dernier à mettre en mouvement l'action du ministère public face au dérapage qui trouble le processus électoral en République démocratique du Congo. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Obul Okwes. Il est journaliste au journal Africa News. C'est un tri hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Obul Okwes. Kasonga Chilunde, il est éditeur du journal L'Éveil. C'est un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa et distribué au Kasaï occidental. Bonsoir Kasonga Chilunde.
Bonsoir.
Clément Mangoubou, il est éditeur du journal Mwangaza, c'est un hebdomadaire qui paraît à Kisangani en province orientale. Bonsoir Clément Mangoubou.
Bonsoir.
Séjour des candidats Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi au Nord Kivu, les procureurs généraux instruits sur le rôle qu'ils doivent jouer face au dérapage pendant les élections. Écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Bonsoir. Démarrons cette revue de presse avec l'avenir qui indique le face-à-face à Goma de Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi, deux gros calibres de la scène politique congolaise. Le potentiel de son côté rapporte que Goma a eu de la chance car elle est la première ville, si pas la seule jusqu'ici, à accueillir en une seule journée deux candidats à la course présidentielle. Une simple coïncidence, un hasard de calendrier ou des négociations en vue entre les deux candidats. Autant des questions qui alimentent des commentaires en sens divers, souligne ce journal. La prospérité s'exclame contre Kabila et Tshisekedi, le duel a été évité à Goma. Selon la consoeur, le chef-lieu de la province du Nord Kivu a vomi tout ce qu'elle avait d'hommes, de femmes et d'enfants, déterminés tous à assister à cet événement préélectoral. Pour Le Phare, contrairement aux craintes des Congolais et des observateurs étrangers déjà présents sur le territoire congolais, Kabila et Tshisekedi ont donné à la classe politique congolaise une mémorable leçon de tolérance politique. Car qui aurait pu jurer que deux meetings organisés dans des sites voisins pouvaient se dérouler et se terminer dans le calme? Concernant les discours, l'observateur rapporte qu'Étienne Tshisekedi a dénoncé les antivaleurs telles que la corruption, le détournement, le clientélisme, la complaisance de la justice et l'intolérance qui ont caractérisé, selon lui, le règne du président Joseph Kabila. Par contre, indique l'avenir, Joseph Kabila a stigmatisé le discours incendiaire de la guerre brandi en cas de non-tenue des élections ou de défaite de ceux qui pensent avoir l'amour du Congo qu'ils ont pourtant détruit une quarantaine d'années durant. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui rapporte que suite aux dérives constatées en période électorale, le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, a invité les procureurs généraux à appliquer la loi. Il faut rappeler que la réception par la CENI de 72 tonnes des bulletins de vote, la prolongation des opérations d'accréditation des témoins et autres observateurs électoraux et la permutation des chefs d'antenne de la CENI ont figuré aussi parmi les autres sujets qui ont occupé les unes des journaux parus cette semaine à Kinshasa.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter, Obul Okwes. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Africa News. C'est un tri hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi cette prolongation par la CENI des opérations d'accréditation des témoins.
Oui, mon petit commentaire pour commencer, c'est par rapport à cette rencontre entre les deux candidats. Je pourrais dire peut-être les plus en vue, parce que Tshisekedi, c'est quand même au sein de l'opposition le poids lourd, j'allais dire qui a le plus fait de l'opposition, parce qu'il est le premier à avoir créé un parti d'opposition avec des collègues bien sûr, mais tout de même le premier sur cet échiquier de la classe politique nationale. Et de l'autre côté, Joseph Kabila. Comme on dit certains confrères, on avait peur, on se disait que ça pouvait mal tourner à tout moment. Au vu des discours qu'on avait entendus quelques semaines ou quelques jours plus tôt. Mais là, par contre, les choses se sont déroulées de manière assez élégante. J'étais même surpris moi-même de constater que, parce que moi je suivais un peu ça de loin avec des amis qui sont là-bas, j'étais quand même assez étonné de voir que Tshisekedi était arrivé avant, pendant qu'il faisait son meeting, Kabila est arrivé, et les meetings se sont tenus vraiment à moins d'un kilomètre l'un de l'autre, sans rien, sans que les combattants ou les partisans ne puissent rentrer dedans. J'ai estimé, comme l'ont dit les confrères, que c'était quand même assez élégant, et cela a pu quand même contredire tous les oiseaux de mauvais augure qui pensaient que ça pouvait à tout moment crépiter.
Merci Kasonga Chilunde, vous êtes éditeur du journal L'Éveil, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa et distribué au Kasaï occidental. La presse a aussi fait état du calme qui est revenu à Kamina au Katanga après une tension hier soir entre les partisans du PPRD et ceux de l'UDPS. Allô Kasonga Chilunde? Apparemment, nous avons perdu Kasonga Chilunde. Clément Mangoubou, vous êtes éditeur du journal Mwangaza, c'est un hebdomadaire qui paraît à Kisangani, en province orientale. Quelle est l'actualité à la une à Kisangani, en province orientale?
L'actualité à Kisangani aujourd'hui est dominée par les passages ou l'arrivée du président Joseph Kabila qui est attendu dans la ville pendant que le président de l'UNC, Kamere, est en train de la quitter pour d'autres horizons. Alors, à Bouta, justement, d'où vient le président, il a dit un certain nombre de choses, dont la chose que les Bouniatropes attendaient le plus, les Ituri attendaient, l'érection de l'Ituri en province autonome d'ici là. Et je crois que dans la ville aujourd'hui, les commentaires vont dans tous les sens. Les étudiants particulièrement jubilent, ils attendaient cette province de pied ferme, mais nous pensons que les conséquences vont aussi retomber sur toutes les autres provinces parce que c'est constitutionnel.
Merci. Notre premier thème de ce soir, élection 2011 en République démocratique du Congo. Les candidats Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi sont arrivés au Nord Kivu lundi dernier dans le cadre de leur campagne électorale. Joseph Kabila, candidat numéro 3, est arrivé à Goma lundi après-midi. En campagne pour sa propre succession, il s'est adressé en swahili à des centaines d'habitants de Goma rassemblés devant la tribune de l'ONC. Quant à Tshisekedi, il est arrivé à Goma en fin de matinée. Le même jour, il s'est exprimé devant des centaines de militants et sympathisants de son parti au stade du volcan de Goma. Même scénario à Butembo, toujours au nord de vous, où les deux candidats sont arrivés presque simultanément ce mercredi. L'un et l'autre, s'adressant à leurs militants et sympathisants, promettent d'échanger la RDC au cours des 5 prochaines années. Les détails avec Étienne Mouindo.
Le président sortant, Joseph Kabila, est arrivé par hélicoptère accompagné de la première dame ainsi que du gouverneur Julien Paluku. Au stade Tshaka Tshaka, où malgré la pluie, une foule immense était mansée pour l'écouter, Joseph Kabila a promis poursuivre les 5 chantiers, notamment l'eau, l'électricité avec la construction du barrage d'Ivoua, la modernisation de la voirie urbaine, ainsi que le bitumage de la route Kassine du Butembo via Beni. Joseph Kabila a promis qu'avant, pendant et après les élections, la RDC ne connaîtra pas de guerre. Parallèlement à la place VGH, où il est arrivé par route à provenance de Beni, Étienne Tshisekedi a tenu son meeting. Il a promis la fin de l'insécurité, la réforme des services de sécurité, police, armée, services de renseignement, la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité des soins pour les personnes du troisième âge. Le leader de l'UDPS a également promis de s'inspirer du dynamisme de la population de Butembo-Beni pour relancer l'économie de la RDC. Enfin, Étienne Tshisekedi promet la victoire de l'opposition le 6 décembre prochain. Étienne Mouindo, Butembo, Radio Okapi.
La réalisation vient de me signaler que Kasonga Chilunde est de nouveau en ligne. Kasonga Chilunde, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, nous parlons du séjour de deux candidats au Nord Kivu au début de cette semaine. Ils se sont tous retrouvés à Goma, à Butembo, le même jour. Ils ont tenu leur meeting. Il n'y a pas eu violence, pas de heurts. Pourquoi, à votre avis, certains observateurs pensaient qu'il était impossible que ces deux personnes se retrouvent dans une même ville le même jour?
Tout simplement parce que vous savez que parmi les 11 candidats, il y a M. Paulo de cette campagne. Il s'agit bien sûr de Tshisekedi Wamalumba et de Joseph Kabila Kabange,
Donc, toute la campagne que les uns et les autres mènent est concentrée autour de ces deux personnalités. De sorte que lorsqu'ils sont retrouvés dans ces deux villes, là, a pris les commentaires en sens divers. Dieu merci, il n'y a eu aucun incident sur les lignes. Mais ça a posé aussi des inquiétudes de savoir que le numéro 3 colle au numéro 11. C'est comme un fol où le numéro 11, qui est un attaquant de feu, un grand buteur, un buteur affronté, est coincé par un défenseur qui n'arrive pas à maîtriser le dribbleur. Donc, c'est cette image-là qui m'est venue directement à l'esprit lorsque j'ai appris que les deux se sont retrouvés à Butembo et à Goma.
Oui, apparemment, nous avons un problème avec la ligne de M. Kasonga et Chilunde, Okwes. Ce qui s'est passé à Goma et à Butembo aussi, n'est-il pas en train de contredire l'opinion selon laquelle les Congolais ont du mal à se tolérer mutuellement?
Oui, justement. Effectivement, ces deux rencontres, je dirais fortuites peut-être, mais j'ai l'impression que c'était des rencontres qui étaient quand même, ça ne dépend pas du hasard, hein, je crois que c'était quand même organisé. Je dis que ça contredit effectivement ce que d'aucuns pensaient, parce que les deux personnalités se rendent compte et savent quels sont, quel est le nombre de personnes qu'elles drainent derrière elles. Je suis convaincu que Tshisekedi sait qu'il a une grande popularité, et Kabila aussi, ayant dirigé le pays pendant ces 5 dernières années, sait que les gens vont pouvoir les suivre, et ils savent que leurs paroles, leurs actes peuvent entraîner des conséquences fâcheuses. Alors je me suis dit qu'ils se sont dit que il faut quand même qu'on mette un peu d'eau ou de l'eau dans notre vin pour que ce ne soit pas nous qui soyons à la base des dérapages. Peut-être que par lieutenant interposé, on pourrait avoir par-ci par-là, comme on l'a entendu à Kamina ou ailleurs, par lieutenant interposé, on a peut-être des échauffourées, mais la présence de deux personnalités, au contraire, rassure même leurs propres partisans. Ils se disent, si Kabila, comme on dit, qui a des gardes autour de lui, parvenait à provoquer des troubles, tout comme par hasard, qu'est-ce que ça sert à? Les conséquences seront plus graves encore que si c'est seulement un de ces lieutenants qui le fait, même si je n'accepte pas la violence. Donc je me dis peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont tellement de l'importance, qu'ils sont des personnalités d'envergure nationale, qu'elles ne peuvent pas se permettre de causer des désordres pendant qu'elles sont sur place. Peut-être que cela pourrait se passer après. Donc ça contredit un peu cette climat que tout le monde récuse aujourd'hui en disant qu'on ne pourrait pas aller à des élections apaisées. Moi je pense que avec cet exemple-là, ces deux exemples-là, il est tout à fait possible qu'on ait des élections apaisées. Kamere et Kengo se sont aussi vus à l'Équateur, même si on peut dire qu'ils sont du même camp, mais ce sont quand même deux concurrents. Donc je me dis que si ce type d'acte-là continue, cela peut donner même l'exemple aux partisans qui pensent qu'ils doivent se rentrer dedans. Ça peut donner l'exemple pour voir qu'on peut se tolérer tout en ne partageant pas les mêmes opinions.
Clément Mangoubou, vous, comment vous expliquez cette attitude des militants et des familles politiques à Goma et à Butembo? Ceci n'est-il pas lié, comme on venait de l'évoquer au Boule, à l'implication de leurs leaders?
Oui, je suis en train de lire dans ces chefs-là la résurrection, je dirais, la transfiguration de l'homme politique congolais qui a compris qu'il ne sert à rien de s'affronter à tout moment, de se créer des problèmes, mais qu'il faut pratiquer la tolérance, il faut comprendre l'autre, il faut tolérer l'autre, il faut lui donner la place qu'il faut. Mais seulement, je me dis, est-ce que la base de chacun de ces candidats comprend réellement ce qui s'est passé? Parce que souvent, les problèmes proviennent d'en bas. Ce n'est pas au niveau des leaders eux-mêmes, c'est au niveau de la base qu'il y a souvent des problèmes. Mais je me dis que l'homme congolais, à travers cet exemple, est en train de se transfigurer pour devenir des créatures nouvelles, des créatures politiques nouvelles. Et ça doit servir de leçon à tout le monde, à tous les partis politiques, à toutes les organisations, à toutes les formations politiques. C'est lié également aussi au poids de chacun des deux candidats, d'un côté Joseph Kabila, de l'autre Étienne Tshisekedi. Ce sont des candidats qui pèsent lourd sur l'échiquier, et là, ils n'avaient pas intérêt à ce que leurs partisans s'affrontent. mais c'est vraiment une grande leçon de démocratie. Cela signifie que la démocratie, c'est nous, a fait des grandes enjambées. La démocratie est en train de marcher.
Kasonga Chilunde, au bout de ce venait de le dire ici, tout est fonction de la volonté des leaders politiques. Et cela veut dire que si ces leaders politiques souhaiteraient que la RDC organise des élections apaisées, les élections se dérouleraient de façon apaisée.
Effectivement, tout part des leaders. Lorsque les leaders exaltent un discours étranger, il est normal que leurs combattants le suivent. C'est pour cette raison que, comme je vous l'ai dit au départ, ce qu'il dit et Kabila, ce sont les deux hautes puissances de cette campagne. Et partout, je suis ici actuellement à Kananga, et la campagne est menée pour les deux candidats là. Je n'en vois pas un autre. Donc le fait que les deux soient l'un à côté de l'autre ou dans la même ville pour leur meeting de campagne, moi je pense que c'est une grande leçon et aussi une manière d'apaiser les combattants qui veulent à tout moment s'affronter inutilement alors que les élections c'est juste une période de campagne d'un mois et un jour d'élection et puis la vie reprend comme d'habitude.
À Kananga où vous vous trouvez présentement, comment les militants de ces deux partis politiques se comportent? Est-ce qu'ils se tolèrent mutuellement? Est-ce qu'ils ne tentent pas de s'affronter? Est-ce que les choses se passent dans le calme?
Ici à Kananga, tout se passe dans le calme. Les militants du PPRD avec des effigies de Joseph Kabila passent avec les drapeaux et ils montent, ils descendent sur leur moto. Des partisans de Tshisekedi tiennent deux réunions, ils passent avec le drapeau. En tout cas, tout se passe dans un calme que nous apprécions. Et puis, il y a un autre parti le plus important de la ville, d'ailleurs, plus important que les deux autres, c'est le CAC, où vous avez beaucoup de partisans qui montent et descendent avec le drapeau, sans qu'ils soient gênés par l'un ou l'autre parti. Mais de ce côté-là, Kananga, c'est un modèle d'une campagne apaisée.
Oui, Oboul Okwes, nous avons vu comment est-ce que les deux leaders se sont comportés au Nord Kivu. Et au-delà des leaders politiques, est-ce qu'il n'y a pas des forces qui impulsent une certaine violence dans les militants, les sympathisants? Je voudrais dire, est-ce que les leaders des partis politiques ne sont-ils pas, à certains points de vue, otages de certains extrémistes et qui se trouveraient dans leur entourage?
Mais je dirais tout de suite, Guy, oui et non. Oui, parce que lorsque quelqu'un atteint la vergure de Tshisekedi ou de Kabila, il ne peut jamais être seul, il ne peut jamais décider tout seul. Il y a toujours des gens tout autour d'eux qui leur permettent justement de prendre des bonnes décisions, parce qu'ils n'ont pas toutes les informations dont ils ont besoin pour décider. Ce qui fait que ces gens qui leur apportent cette information pourraient aussi avoir la volonté de les conduire vers une direction ou vers une autre. Ça, c'est pour dire oui. Ça veut dire que l'entourage peut pouvoir faire cela. Mais non également parce que ça dépend de l'envergure, ça dépend de la volonté. On peut avoir un programme politique, mais quand on appelle quelqu'un leader, ça veut dire que c'est lui qui mène en fait. C'est lui qui donne l'impulsion à son programme politique et à sa campagne politique. On le voit, on le sent à travers les médias. Lorsque un candidat est en train de parler, il y a des candidats qui passent systématiquement peut-être le temps à parler des autres, d'autres qui ne parlent que d'eux-mêmes, ainsi de suite. On sent la différence. Et là, c'est l'équation de l'individu candidat qui compte. Ce n'est plus l'équation de l'ensemble du parti. Donc parfois, c'est le candidat qui, à travers son discours, peut pousser les gens à faire ceci ou cela, à se comporter de telle ou de telle ou autre manière. Parfois aussi, le candidat ne sait pas ce qui se fait à travers le lieutenant interposé ou à travers son état-major. On pourrait aussi arriver à impulser tel ou tel autre type de comportement. De toute manière, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. De toute manière, tout cela retombe sur les leaders, les chefs. C'est pourquoi ils devraient pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage, à ce qu'ils contrôlent plus ou moins ce qui se dit et ce qui se fait, même à leur absence, parce que finalement, ils emporteront la responsabilité finale.
Peut-on minimiser l'influence de certains extrémistes à l'endroit des leaders politiques?
Oui, comme le disait mon confrère, il y a d'abord deux niveaux. Il y a le leader lui-même, son comportement, ses agissements, son discours, qui peut amener les partisans à s'enflammer. Mais il y a aussi des partisans zélés et qui cherchent toujours à faire voir au chef que eux ils supportent plus que les autres et qui créent des problèmes. Effectivement, ils ont une petite influence aussi, parce que ce qu'ils rapportent aux leaders, c'est l'amener à leur dire de se conduire d'une manière ou d'une autre. Je crois que il y a une grande responsabilité à partager là-dedans. Les leaders lui-même, mais aussi les partisans. Merci tous les partisans zélés, ceux qui veulent que ça s'allume à tout moment, qu'il y ait des problèmes à tout moment, qui veulent faire voir que c'est eux qui gèrent les chefs, c'est eux qui sont les plus engagés, c'est eux qui font tout.
Kasonga Chilunde, parce que il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, peut-on se permettre d'attribuer les dérapages de certains militants, des partis politiques à leurs leaders politiques?
Effectivement, ça c'est un peu réel, parce que je peux vous donner un cas ici à Kabanga. Nous avons un parti comme le CAC, avec un leader de la Trump, Alex Kane Mupompa, un homme foncièrement paisible. Il n'a pas besoin des incidents. Je vous donne un cas, quand nous sommes arrivés, on a cassé son effigie géant qui était placé dans un coin de la ville. Mais il a demandé à ses partisans d'être calmes, de ne jamais agresser les autres. Donc, le tout part du leader. Lorsque le leader estime qu'il est brillant et il doit, par tous les moyens malhonnêtes, acquérir les voix, donc il est capable de soulever les gens. S'il estime qu'il ne peut pas accepter la défaite, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un subterfuge et il passe par ses partisans qu'il soulève parfois contre les autres leaders qui brillent sur la ville. À partir de ce moment-là, je me dis que les partis répondent de la qualité de leur leader. Lorsqu'un leader est un bouillant qui aime menacer les gens, ben, les partisans vont le suivre. Monsieur, un leader est paisible, qui ne veut pas de problèmes. Vous verrez très bien que lorsqu'il apprend que l'un de ses partisans a agressé un autre, il écarte du groupe parce qu'il trouve que c'est un mauvais fruit. Donc, tout part des leaders. S'ils sont violents, tout le reste est violent. Mais s'ils sont paisibles, tous les combattants le seront aussi.
Au bout, on a vu les candidats Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila à Goma et à Butembo, où ils se sont adressés à leurs militants, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que cela peut nous aider à espérer que ces deux personnalités peuvent aussi se rencontrer pour lancer des messages d'apaisement à leurs militants, comme le souhaite la nouvelle société civile congolaise?
Oui, ça devrait pouvoir être une action pédagogique, ce qui s'est passé à Butembo et à Goma. On peut pouvoir capitaliser cette action. Si ces deux leaders politiques acceptent aujourd'hui de se mettre ensemble, je donne un exemple, qu'aussitôt rentré ici à Kinshasa, ou je sais pas moi, le jour de la clôture de la campagne, s'ils décident chacun, par exemple dans son coin, d'adresser un message d'apaisement à leurs militants, je suis convaincu que les élections vont se passer de manière apaisée. On peut utiliser ça comme pédagogie. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il s'agit de savoir si ces deux personnalités peuvent se mettre aujourd'hui ensemble. Nous avons vu, pendant les élections de 2006, excusez-moi de reculer, qu'à un moment, Kabila, qui avait gagné les élections, est allé à la rencontre de Jean-Pierre Bemba, est allé chez Jean-Pierre Bemba, dans sa résidence. Nous avons vu que cela a permis de pouvoir extirper un certain nombre d'a priori que les gens avaient. Ah bon ? On pensait qu'ils ne pouvaient jamais se rencontrer, qu'ils ne pouvaient plus jamais se rencontrer. Mais on a vu que cela a apaisé les gens, ça a calmé les esprits. Si ce type de rencontres peuvent se multiplier, même avec les autres candidats qu'on estime être des ennemis ou plutôt des adversaires, je crois que ça peut permettre effectivement d'apaiser les esprits, parce qu'on aura vu que finalement, comme a dit Kasonga Chilunde, au-delà des élections, le lendemain après la proclamation, ben la vie va continuer et qu'il n'y aura pas, la terre ne va pas s'écrouler parce qu'un candidat ou l'autre aura perdu.
Clément Ngoubou rencontre Étienne Tshisekedi et Kabila, ce qui est souhaité. Est-ce que cela est possible?
Oui, tout est possible. Cette rencontre peut même être envisagée pour apaiser les esprits. Et déjà, ce que j'ai suivi à Bunia et à Bukavu nous rassure un peu, parce que à Bunia, le président Kabila dit qu'il est démocrate et qu'il va laisser les urnes parler. S'il gagne, il gagnera. Et à Bukavu aussi, Étienne Tshisekedi dit, lui, il attend le verdict des urnes. et il va se soumettre à ce verdict-là. Vous voyez que déjà les positions ont évolué et que ça aussi, ça apaise, ça rassure. Bon, quand il y avait des discours du genre c'est moi qui gagne, c'est moi qui ai gagné, je suis déjà proclamé, là il y avait une sorte de tension et de tiraillement. Aujourd'hui, quand les discours ont évolué, la rencontre Étienne Tshisekedi, Joseph Kabila est possible. Ils peuvent être ensemble et peuvent faire un message, ou comme l'a dit mon confrère Oboul, chacun dans son coin fait un message d'apaisement. Je crois que les choses vont aller pour le mieux.
Kasonga Tshilunde rencontre Joseph Kabila Tshisekedi, c'est possible?
Elle peut être possible, mais moi je ne la trouve pas nécessaire. Pour la simple raison que chacun est en train de mener sa campagne à sa manière, avec ses moyens. Alors, le fait que déjà l'un et l'autre disent dans leur meeting qu'ils vont accepter les résultats des urnes, c'est déjà suffisant. Leur rencontre ne représente absolument rien, ce sera du folklore. Donc pour ce qui me concerne, je crois que à ce niveau-là, le fait que l'un et l'autre donnent des messages clairs et précis, je ne vois pas la nécessité de leur rencontre.
Merci. Notre dernier thème de ce soir, tous les procureurs généraux ont été instruits mardi dernier à mettre en mouvement l'action du ministère public face au dérapage qui trouble le processus électoral en République démocratique du Congo. 12 procureurs généraux nouvellement affectés près les cours d'appel des provinces ont conféré mardi dernier à Kinshasa avec le procureur général de la République. Au menu de leurs échanges, les rôles constitutionnels qu'ils doivent jouer avant, pendant et après les élections. Le procureur général du parquet général de Bukavu explique les objectifs de cette rencontre. Pascal Moukonkolo le dit à Jeff Ngoy.
C'est dans le souci de l'émergence d'une justice pénale efficace. Le procureur général de la République nous a donné des directives, nous invitant à nous impliquer totalement dans l'exercice de l'action publique et à nous mettre au travail pour faire appliquer la loi dans ce pays. Et pour ça aussi, nous a invité de mettre sur pied tout le mécanisme nécessaire dans l'encadrement de nouveaux magistrats. Les officiers du ministère public veillent au respect strict de lois de la République démocratique du Congo et des règlements sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pendant cette période, notre rôle, c'est de veiller à c'est que le loi soit respectée. Parce que même pendant la campagne électorale, il n'est pas dit que pendant cette période, on ne doit plus respecter le loi de la République. Et ceux qui ne vont pas respecter ces lois, certainement, ils seront poursuivis et traduits devant la justice.
Au bout de quoi, comment vous analysez cet appel du procureur général de la République à l'endroit des procureurs généraux?
Cela devait être fait tout le long déjà de notre vie au quotidien. Pourquoi cela devait être fait depuis longtemps? Parce que effectivement, le travail du procureur, c'est ne pas seulement attendre d'être saisi de certaines choses, mais aussi de se saisir, c'est ce que dit la loi. Donc il peut se saisir de certaines situations. Et je crois que là, le procureur général n'a fait que rappeler ce devoir à ses nouveaux substituts et ses nouveaux procureurs, n'est-ce pas, qui ont été nouvellement nommés. Il n'a fait que leur rappeler, en fait, leur travail au quotidien. C'est de pouvoir veiller, de pouvoir surveiller le comportement de la communauté et pouvoir voir si, dans leurs agissements, les citoyens n'agissent pas contre la loi, ne sont pas contre la loi. Et en période électorale, cela devient encore plus important parce que, vous savez, les élections peuvent amener la guerre, peuvent amener des troubles dans un pays qui est pourtant déjà sorti des grands conflits armés. Et donc, le fait de surveiller ces hommes politiques ou de surveiller leurs discours ou leurs comportements, c'est un fait important. Mais il faudrait aussi qu'on évite, que la justice évite de se mettre parfois à la défensive. C'est comme si on arrivait, comme les pompiers qui arrivent toujours après les feux. C'est des choses qu'on peut prévenir, ce genre de comportement. Dès que l'on sent que quelqu'un se comporte un peu à marge de la loi, il ne s'agit pas seulement de réprimer, mais aussi de trouver des mécanismes pour le rappeler à l'ordre. C'est-à-dire qu'on peut concilier ce que fait la justice, mais également les rôles de certaines communautés, disons les églises. On devait pouvoir les impliquer, n'est-ce pas? Il y a des relais sociaux, vous avez parlé de la société civile tout à l'heure, qui peuvent aussi jouer ce rôle en disant, avant qu'on arrive à la justice, monsieur a commis une erreur, ça peut être un égarement, qu'on lui reproche d'abord, qu'on le rappelle d'abord à l'ordre, avant d'arriver à l'action en justice. Parce que la justice, elle vous condamne ou elle vous relâche. À ce moment-là, vous n'avez plus la possibilité de pouvoir vous amender autrement qu'en allant peut-être en prison.
Clément Mangoubou, cet appel du procureur général de la République, est-ce une interpellation ou un simple rappel par rapport au rôle que doit jouer tout procureur général?
Moi, je me dis que c'est tout simplement un rappel, parce que tous les procureurs savent, tous les officiers du ministère public savent quel rôle ils doivent jouer dans la société. Et Dieu merci, mieux vaut tard que jamais, que le procureur général puisse réagir de cette façon pour les rappeler à l'ordre. Et déjà, vous avez suivi que les procureurs de la Cour pénale internationale avaient déjà menacé les acteurs congolais pour leur dire et que la Cour veillait à leur comportement et qu'elle allait condamner, se saisir de tous les dérapages. Je crois qu'il n'a pas fallu que les procureurs attendent tous ces temps pour se réveiller un peu en retard. En cette période délicate, il aurait pu rappeler à l'ordre tous les procureurs à partir du commencement du processus. Mais il a longtemps attendu. Dieu merci, mieux vaut tard que jamais. Mais nous nous disons qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Maintenant, ils peuvent se saisir de tous les dérapages, de tous les actes mauvais pour remettre les gens sur les rails. Et je pense que il fallait prévenir tout cela. Il ne fallait pas attendre que la Cour pénale internationale réagisse, fasse des remontrances aux acteurs politiques congolais et à tous les Congolais pour se réveiller en retard.
Kasonga Chilunde, une certaine opinion pense que cet appel du procureur général de la République arrive tardivement. Est-ce que vous partagez cette opinion?
Moi, plutôt, je dis que c'est une preuve de la non-existence de l'État dans ce pays. Parce que si l'État existait, tout le monde, tout citoyen, respecterait les lois de la République. Est-ce que le procureur général de la République a-t-il besoin de rappeler au procureur ce qu'il doit faire au quotidien? Je ne pense pas. Quand vous prenez vous notre justice, il y a toujours la corruption, donc toutes ces antivaleurs. Il est difficile aujourd'hui qu'un procureur régente une action publique face à un homme politique qui dépend de la majorité. À partir de ce moment-là, le procureur général, c'était les autres procureurs, c'était tout simplement parce que la personne incriminée appartient à la famille à laquelle appartient le chef de l'État. Donc je pense que le rappel, non seulement qu'il est en retard, moi je trouve que c'est une preuve de la non-existence de l'État. Parce que si l'État existait, les lois seraient appliquées sans qu'il y ait quelqu'un pour vous dire faites ceci, faites cela. Même si il a fait avec retard, mais le rôle du procureur général de la République aurait dû être de sanctionner les procureurs qui ne font pas leur travail. J'estime que sincèrement, ce rappel pour moi c'est la preuve que l'État n'existe pas dans ce pays.
Oboul Okwes, comment peut-on expliquer cette sorte d'apathie de la justice congolaise face au cas des violences enregistrées depuis un certain moment dans ces pays? Kasonga Chilunde parle de la non-existence de l'État.
Non, je crois que Kasonga Chilunde sait très bien qu'il exagère. On ne peut pas dire que l'État n'existe pas. Après qu'on ait fait des élections, après qu'on ait fait les avancées, pour qu'un État existe, toutes les théories sont claires, hein, et même la pratique est claire. On a un État, on a un territoire, on a un gouvernement, on a un pouvoir, on a des institutions, on a même une opposition très très forte qui est en train de faire. Donc l'État existe bien de ce côté-là. Mais c'est pas parce que la justice ne marche pas comme on le souhaitait, parce que tout le monde voudrait que la justice aille, disons, fonctionne normalement, parce que c'est ça la sécurité pour tout le monde. Et donc, face à tous les dérapages qu'on a connus jusque-là par rapport au processus électoral, la justice n'a pas agi, mais la justice aussi n'agit pas ex abrupto. C'est pas aujourd'hui que la justice agit immédiatement. Dans chaque affaire, il y a toujours une procédure qu'on suit. Il faudrait aussi éviter de tout casser et de donner l'impression qu'on est en train de craquer les hommes politiques. Il y a aussi, disons-le, une certaine liberté qu'on donne aux hommes politiques de dire certaines choses. Mais on leur demande de ne pas exagérer, de ne pas casser l'État, de ne pas pousser les gens à la violence ou à la rébellion. Mais il y a des choses que les hommes politiques disent, hein, pour faire, ils disent entre eux. Sinon alors, on allait poursuivre de tous ceux qui sont au Parlement. Dès qu'ils parlent, on les arrête. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas le plus important que de réagir tout de suite, mais de regarder le comportement des gens. Effectivement, là où les gens dérapent, quel que soit le bord où ils sont, ça doit d'abord commencer par être condamné par l'ensemble de la communauté et que la justice agisse de manière impartiale. envers tout le monde. Parce que ce n'est pas normal que dans une situation on sanctionne et que dans une autre situation on ne puisse pas sanctionner. C'est ce qui fait des frustrations, c'est ce qui donne des frustrations. Mais on espère que notre justice, pour moi je dis que la justice existe, même si elle n'a pas encore tous les moyens de bien fonctionner, même si elle ne fait pas encore son travail à 100% à notre entière satisfaction, mais elle existe déjà, il y a un noyau, il faudrait maintenant la pousser à aller de l'avant pour bien faire ce travail. C'est donc une interpellation, comme le fait la société civile ou les organisations des droits de l'homme, que la justice soit une justice distributive, qu'elle soit là pour tout le monde.
Il faut la pousser à aller de l'avant ou elle-même doit savoir prendre des initiatives. Parce qu'à partir du moment où la loi est violée, la justice ne doit pas rester passive.
Elle ne doit pas rester passive, mais les citoyens peuvent pousser la justice à aller de l'avant. Mais pourquoi il existe des actions comme les sit-ins, quoi, ainsi de suite? Mais aujourd'hui, on peut accuser un juge qui a mal tranché une affaire. On peut l'accuser. Donc, la population, la société civile devrait aussi veiller à pouvoir pousser la justice à faire son travail. Mais le rappel que fait le procureur n'est pas un rappel anodin. Ce n'est pas parce que les lois existent qu'on ne doit pas rappeler aux gens. Non, au contraire. Puisque ça existe, rappelons aux gens que cela existe et qu'ils doivent faire leur travail. Sinon, quel serait le travail du procureur? D'attendre que les gens commettent les infractions? Non. Il doit commencer par rappeler les gens que vous avez un devoir. Et après, lorsque ces gens ne font pas ce devoir, à ce moment-là, il peut facilement sanctionner.
Clément Mangoubou, les magistrats ont-ils réellement une large marge de manœuvre pour agir, surtout quand il s'agit de poursuivre une personnalité influente, une personnalité puissante?
Bon, c'est de tout temps qu'on nous dit que la magistrature est indépendante. La magistrature est un pouvoir à part. Je pense qu'il devrait disposer de tous les moyens pour faire la justice, pour poursuivre quel que soit le niveau de la personne ou son influence dans la société. Parce que la justice, elle n'est pas pour les grands, elle n'est pas pour les petits, elle est pour tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas d'exception à marquer. Vous dites, celui-là ne peut pas être poursuivi parce qu'il a de l'influence, celui-là non parce qu'il est de tel camp. Moi, je pense que tout le monde est égal devant la loi. Et devant la loi, le magistrat doit appliquer tous les principes qu'il faut pour amener les uns et aux autres à redresser leur comportement. Je crois qu'ils disposent des moyens. Je ne dis pas des moyens matériels, mais au moins, les hommes sont là. On a aussi des gens qui ont étudié, qui sont bien formés, mais des gens qui ne devraient pas être complexés, qui devraient prendre toutes leurs responsabilités pour agir sans complaisance.
Kasonga Chilunde, une certaine opinion pense que l'État congolais ne devait pas faire appel à la CPI, devait plutôt concentrer ses efforts à la formation des magistrats que nous avons, afin que ceux-ci fassent leur travail convenablement.
Effectivement, si l'État congolais fait appel à la CPI, c'est une preuve que cet État n'a pas de justice. Il estime que sa justice est très faible, corrompue, qu'elle n'est plus en mesure de mener des actions qui puissent convaincre la population congolaise. Pourquoi un État congolais, 31 ans après l'indépendance, peut-on toujours continuer à recourir à l'extérieur? Nous avons des magistrats très compétents, nous avons beaucoup de magistrats qui ont fait des grandes écoles, mais qu'est-ce qui empêche à l'État de les mettre dans les meilleures conditions de travail et ensuite de leur demander d'appliquer la loi comme il se doit, au lieu maintenant de recourir à la CPI, tout simplement parce qu'on estime que notre justice à elle seule n'est pas en mesure de faire son travail comme il se doit. Moi, je pense sincèrement que c'est une grosse erreur d'avoir fait appel à la CPI, même si par moments on trouve qu'avec la CPI les gens ont peur, mais il faut que l'État congolais prenne en compte l'existence de notre justice, mette nos magistrats dans les meilleures conditions de travail. C'est pas nécessaire qu'on les rappelle à l'ordre, mais ils doivent savoir que mon travail c'est ça. Moi, mon travail c'est, je suis un journaliste, c'est d'écrire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me rappelle à l'ordre pour que je puisse écrire? Non. Donc je pense que si on les mettait dans les meilleures conditions de travail, chaque procureur actionnerait tout ce que vous savez comme infraction et puis nous irions de l'avant.
Au bout de l'Ouest, l'État congolais n'a-t-il pas confiance en sa propre justice?
Non, mais la justice existe, c'est vrai, mais on ne peut pas faire semblant de dire que nous vivons en autarcie. Hein. La République démocratique du Congo est partie prenante de plusieurs lois, de plusieurs traités internationaux. Et donc, lorsque vous signez ou vous adhérez à ce type de traité, vous êtes obligé de respecter. Et donc, s'il existe déjà une cour qui peut se saisir de cela, en plus, des cours et tribunaux nationaux, moi je ne vois pas du tout d'inconvénient et je crois même que c'est très pédagogique que l'on dise aux gens que la CPI va s'occuper de vous parce que il faut voir, il y a deux niveaux de responsabilité lorsque par exemple pendant les élections les crimes sont commis. On l'a vu avec le Kenya. Il y a des gens qui ont agi sur terrain, mais il y a des auteurs moraux et des auteurs intellectuels de ces crimes, par exemple post-électoraux. Et donc dans ce cas-là, pour éviter, moi je suis pour ça, pour éviter de politiser les choses. Parce que vous vous rappelez, lorsque certaines personnes sont allées à ces pays, je donne l'exemple de Jean-Pierre Bemba, tout le monde a dit que cette affaire était politisée, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais on a dit que c'était politisé par certaines personnes, même si ça concerne la République centrafricaine. Il faudrait donc éviter de mettre au tribunal, dans nos tribunaux, n'est-ce pas, de déférer devant la justice des gens qui auraient commis peut-être certaines choses, pour qu'on dise que ça a été politisé. Appelons alors une cour international qui est plus ou moins neutre, qui puisse permettre de pouvoir juger tout le monde de manière plus équitable, parce que chez nous, il y a toujours, il faut aller de manière tatillonne. Est-ce que cela n'est pas de la majorité? Est-ce qu'il n'est pas de l'opposition? Pour éviter cela, moi, j'accepte, je dis que c'est bien fait que la CPI vienne aider notre justice à pouvoir traquer tous ceux qui se hasarderaient à remettre ce pays à feu et à sang. Pour moi, j'estime que c'est bon.
Clément Mangoubou, qu'est-ce qui devait être fait le premier? Il fallait commencer par réactiver la justice congolaise ou commencer d'abord par faire appel à la CPI?
La justice congolaise existe bel et bien. Elle est là avec ses problèmes. Mais il fallait commencer par notre justice d'abord, avant de recourir à la CPI. Et nous pensons que nous avons des compétences, nous avons des moyens, même si les moyens matériels sont aujourd'hui insuffisants, mais nous pensons que les magistrats sont là, les moyens sont là, les conditions sont réunies pour qu'ils puissent travailler, surtout pendant cette période ici. Mais il n'est pas du tout mauvais de faire appel à la justice internationale, parce que, comme l'a dit mon confrère au bout, les gens ont tendance à tout politiser. Et aussi, c'est une façon de dire à la communauté internationale que nous voulons la transparence. Avec la présence de la Cour pénale internationale, tout est clair, c'est la transparence elle-même.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la technique, Kéline Kouté à la réalisation, assisté de Samuel Kachak, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, devant ses micros, Guy Maté. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.